Bonjour à tous. Ces temps de confinement nous obligent à trouver d'autres moyens pour partager lectures et conversations et culture d'une façon générale. J'ai donc choisi de partager avec vous quelques moments de littérature. Et nous allons donc commencer par une œuvre écrite en 1830 par Victor Hugo, qui avait à peine 30 ans, quand il a écrit Notre-Dame de Paris. Et c'est autour d'elle que tout gravite, comme tout fut effouillé, et comme une architecture de cathédrale. En résonance avec notre calendrier, j'ai choisi aujourd'hui de vous lire deux extraits, Les cloches et Quasimodo. Quasimodo comme un géant face à la fine et dansante Esmeralda. Quasimodo qui est borgne, bossu et sourd, comme en référence aux gargouilles de la cathédrale et similaire aux monstres ou aux démons. C'est un enfant trouvé, Quasimodo. Notre-Dame est sa forêt. Les vitraux sont ses fleurs, les chapiteaux ses feuillages. Il converse avec tous et notamment avec les cloches, dans ce monde muet, mais qui se fait entendre de lui. C'est une leçon d'existence que nous donne ici Victor Hugo avec Quasimodo, qui est un personnage dédaigné, épouvantable, mais qui est fou d'amour pour Esmeralda, et dont la référence pourrait se retrouver plus tard dans La Belle et la Bête. Le roman a été écrit en moins de 6 mois, et le succès fut retentissant. Quasimodo. En un clin d'œil, tout fut prêt pour exécuter l'idée de Coppenole. Bourgeois, écoliers, basochiens, c'était mis à l'œuvre. La petite chapelle située en face de la table de marbre fut choisie pour le théâtre des grimaces. Une vitre brisée à la jolie rosace au-dessus de la porte laissa libre un cercle de pierre par lequel il fut convenu que les concurrents passaient la tête. Il suffisait, pour y atteindre, de grimper sur deux tonneaux qu'on avait pris je ne sais où et juchés l'un sur l'autre tant bien que mal. Il fut réglé que chaque candidat, homme ou femme, pour laisser vierge et entière l'impression de sa grimace, se couvrirait le visage et se tiendrait caché dans la chapelle jusqu'au moment de faire son apparition. En moins d'un instant, la chapelle fut remplie de concurrents sur lesquels la porte se referma. Coppenole, de sa place, ordonnait tout, dirigeait tout, arrangeait tout. Pendant le brouhaha, le cardinal, non moins décontenancé que Gringoire, s'était, sous un prétexte d'affaires et de vêpres, retiré avec toute sa suite, sans que cette foule, que son arrivée avait remuée si vivement, se fût le moindrement émue à son départ. L'attention populaire, comme le soleil, poursuivait sa révolution. Partie d'un bout de la salle, après s'être arrêtée quelque temps au milieu, elle était maintenant à l'autre bout. La table de marbre, l'estrade, avaient eu leur moment. C'était le tour de la chapelle de Louis XI. Le champ était désormais libre à toute folie. Il n'y avait plus que des flamands et de la canaille. Les grimaces commencèrent. La première figure qui apparut à la lucarne avec des paupières retournées au rouge, une bouche ouverte en gueule et un front plissé comme nos bottes à la hussarde de l'Empire, fit éclater de rire tellement inextinguible qu'Homère eût pris tous ses manants pour des dieux. Cependant, la grande salle n'était rien moins qu'un Olympe, et le pauvre Jupiter de Gringoire le savait mieux que personne. Une seconde, une troisième grimace succédèrent, puis une autre, puis encore une autre, et toujours les rires, les trépignements de joie redoublés. Il y avait dans ce spectacle je ne sais quel vertige particulier, je ne sais quelle puissance d'enivrement et de fascination dont il serait difficile de donner une idée au lecteur de nos jours et de nos salons. Qu'on se figure une série de visages présentant successivement toutes les formes géométriques, toutes les expressions humaines, depuis la colère jusqu'à la luxure, tous les âges, depuis les rides du nouveau-né jusqu'aux rides de la vieille moribonde, toutes les fantasmagories religieuses depuis Faune jusqu'à Belzébuth. On se représente tous les mascarons du Pont Neuf, ces cauchemars pétrifiés sous la main de Germain Pilon prenant vie et souffle et venant tour à tour vous regarder en face avec des yeux ardents. Tous les masques du carnaval de Venise se succédaient à votre lorgnette. En un mot, un kaléidoscope humain. L'orgie devenait de plus en plus flamande. Qu'on se figure en bacchanal la bataille de Salvator Rosa. Il n'y avait plus ni écolier, ni ambassadeur, ni bourgeois, ni homme, ni femme. Tout s'effaçait dans la licence commune. La grande salle n'était plus qu'une vaste fournaise d'effondrement et de jovialité où chaque bouche était un cri, chaque œil un éclair, chaque face une grimace, chaque individu une posture. Le tout criait et hurlait. Les visages étranges qui venaient tour à tour grincer des dents à la rosace étaient comme autour de Brandon jetés dans le brasier. Une rumeur aigre, aiguë pourtant, acérée, sifflante comme les ailes d'un moucheron. « Ohé, malédiction, vois donc cette figure, elle ne vaut rien. Ah, une autre, une autre, une autre. J'étouffe. En voilà un dont les oreilles ne peuvent passer. Enfin, etc., etc. » Il faut rendre pourtant justice à notre ami Jehan. Au milieu de ce Shabbat, on le distinguait encore en haut de son pilier comme un mousse dans le hunier. Il se démenait avec une incroyable furie. Sa bouche était toute grande ouverte et il s'en échappait un cri que l'on n'entendait pas, non qu'il fût couvert par la clameur générale, si intense qu'elle fût, mais parce qu'il atteignait, sans doute, la limite des sons aigus perceptibles. Quant à Gringoire, le premier moment d'abattement passé, il avait repris contenance. Il s'était raidi contre l'adversité. « Continuez !» avait-il dit pour la troisième fois à ses comédiens. Il lui prenait des fantaisies d'aller apparaître à son tour à la lucarne de la chapelle, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de faire la grimace à ce peuple ingrat. Mais non, cela ne serait pas digne de nous. Pas de vengeance. « Luttons jusqu'à la fin », se répétait-il. Hélas, il était resté le seul spectateur de sa pièce. C'était bien pis que tout à l'heure, il ne voyait plus que de dos. Des dos, et encore des dos. Je me trompe, le gros homme patient, qu'il avait déjà consulté dans un moment critique, était resté tourné vers le théâtre. Gringoire fut touché au fond du cœur de la fidélité de son unique spectateur. Il s'approcha de lui et lui adressa la parole en lui secouant légèrement le bras. Car le brave homme s'était appuyé à la balustrade et dormait un peu. « Monsieur, monsieur, dit Gringoire, je vous remercie. »« Monsieur, répondit le gros homme avec un bâillement. Mais merci de quoi ? » ?»« Je vois ce qui vous ennuie, reprit le poète. » C'était tout ce bruit qui vous empêche d'entendre à votre aise, mais soyez tranquille, votre nom passera à la postérité. Votre nom, s'il vous plaît ? Renaud Château, garde du sel du Châtelet, de Paris, pour vous servir. Monsieur, vous êtes le seul représentant des muses, dit Gringoire. Vous êtes trop honnête, monsieur, répondit le garde du sel du Châtelet. Vous êtes le seul, reprit Gringoire, qui avait convenablement écouté la pièce. Comment la trouvez-vous ? Il fallut que Gringoire se contentât de cet éloge, car un tonnerre d'applaudissements mêlé à une prodigieuse acclamation vint couper court à leur conversation. Le pape des fous était élu. « Noël, Noël !» criait le peuple de toutes parts. C'était une merveilleuse grimace, en effet, que celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. Après toutes les figures géométriques qui s'étaient succédées à cette lucarne, sans réaliser cet idéal du grotesque qui s'était construit dans les imaginations exaltées par l'orgie, il ne fallait rien moins pour enlever les suffrages que la grimace sublime qui venait d'éblouir l'assemblée. Maître Coppenole lui-même applaudit. Et Clopin Trouillefou, qui avait concouru, et Dieu sait quelle intensité de laideur son visage pouvait atteindre pourtant, sa voix vaincue. « Nous ferons de même. Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétralèdre, de cette bouche en fer de cheval, de ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussaille, tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ses dents désordonnées, de ce menton fourchu et surtout de la physionomie répandue, sur tout cela de ce mélange de malice, d'étonnement, de tristesse qu'on rêve, si l'on peut, cet ensemble. L'acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. Ou plutôt, toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux, entre les deux épaules, une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux. Et vues de face, ressemblaient à deux croissants de fossiles qui se rejoignaient par la poignée. De larges plaies, des mains monstrueuses. Et avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage. Étrange exception à la règle éternelle qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l'harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se donner. On eût dit un géant brisé et mal ressoudé. Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile et trapu et presque aussi large que haut, à son surtout mi-parti rouge et violet semé de campaniles d'argent, à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur-le-champ et s'écria d'une voix: C'est Quasimodo, le sonneur de cloches, c'est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame! Oh, Quasimodo! Quasimodo se tenait toujours sur la porte de la chapelle. Les hommes étaient ravis, applaudissaient. Il était sombre et grave et il se laissait admirer. Un écolier vint lui rire sous le nez, trop près. Quasimodo se contenta de prendre par la ceinture et de le jeter à 10 pas à travers la foule, le tout sans dire un mot. Maître Coppenole, émerveillé, s'approcha de lui. Crois Dieu, Saint-Père, tu as bien la plus belle laideur que j'ai eue de ma vie. Tu mériterais la papauté à Rome comme à Paris. En parlant ainsi, il lui mettait la main gaiement sur l'épaule. Quasimodo ne bougeait pas. Tu es un drôle! Avec qui j'ai démangeaison de ripailler. Quasimodo ne répondait pas. Crois Dieu, dit le chaussier, est-ce que tu es sourd? Il était sourd, en effet. Cependant, il commençait à s'impatienter de ses façons. Il se tourna tout à coup vers lui avec un grincement de dents si formidable que le géant recula un peu comme devant un chat. Alors il se fit autour de l'étrange personnage un cercle de terreur et de respect qui avait au moins 15 pas géométriques de rayon. Une vieille dame expliqua à Maître Coppenole que Quasimodo était sourd, oui. Sourd, dit le chaussier. Crois Dieu. Et je le reconnais, s'écria Jehan, qui était enfin descendu de son chapiteau pour voir Quasimodo de plus près. C'est le sonneur de cloches de mon frère. Diable d'homme! Encore tout coutu de sa chute, il paraît, c'est un bossu! Ah, vous lui parlez, mais c'est un sourd. Il parle quand il veut, dit la vieille. Il est devenu sourd à sonner les cloches, il n'est pas muet. Cela lui manque. Ah, et il attendait. Mais, s'écria. Ah, mais un œil de trop. Robin Poussepain était un petit peu mal chaussé. Ah, c'était un borgne bien plus incomplet qu'un aveugle. Il sait ce qui lui manque. Cependant, tous les mendiants, tous les laquais, tous les coupe-bourses réunis aux écoliers avaient été chercher processionnellement dans l'armoire de la basoche la tiare de carton et la simarre, dérisoire du pape des fous. Quasimodo s'en laissa revêtir sans sourciller et avec une sorte de docilité orgueilleuse. Puis on le fit asseoir sur un brancard bariolé. 12 officiers de la confrérie des fous l'enlevèrent sur leurs épaules, et une espèce de joie amère et dédaigneuse vint s'épanouir sur la face morose du cyclope, quand il vit, sous les pieds difformes, toutes ces têtes d'hommes beaux, droits et bien faits. Puis la procession hurlante et déguenillée se mit en marche pour faire, selon l'usage, la tournée intérieure des galeries avant la promenade des rues et des carrefours. Les cloches. Depuis la matinée du pilori, les voisins de Notre-Dame avaient cru remarquer que l'ardeur carillonneuse de Quasimodo s'était fort refroidie. Auparavant, c'était des sonneries à tout propos, de longues aubades qui duraient, des volées, du beffroi pour une grand-messe, des riches gammes promenées sur les clochettes pour un mariage, un baptême, et s'entremêlant dans l'air comme une broderie de toutes sortes de sons charmants. La vieille église, toute vibrante et toute sonore, était dans une perpétuelle joie de cloches. On y sentait sans cesse la présence d'un esprit de bruit et de caprice qui chantait par toutes ces bouches de cuivre. Maintenant, cet esprit semblait avoir disparu. La cathédrale paraissait morne et gardait volontiers le silence. Les fêtes, les enterrements avaient leur simple sonnerie sèche et nue, ce que le rituel exigeait, rien de plus. Du double bruit que fait une église, l'orgue au dedans, la cloche au dehors, il ne restait que l'orgue. On eût dit qu'il n'y avait plus de musiciens dans les clochers. Quasimodo y était toujours pourtant. Que s'était-il donc passé en lui? Était-ce que la honte et le désespoir du pilori duraient encore du fond de son cœur, que les coups de fouet du tourmenteur se répercutaient sans fin dans son âme, et que la tristesse d'un pareil traitement avait tout éteint chez lui, jusqu'à sa passion pour les cloches? Ou bien, était-ce que Marie était une rivale dans le cœur du sonneur de Notre-Dame, et que la grosse cloche et ses 14 sœurs étaient négligées pour quelque chose de plus aimable et de plus beau? Il arriva que, dans cette gracieuse année 1482, l'Annonciation tomba un mardi 25 mars. Ce jour-là, l'air était pur et léger, si pur et si léger que Quasimodo se sentit revêtir quelques amours de ses cloches. Il monta donc dans la tour septentrionale, tandis qu'en bas, le bedeau ouvrait tout large les portes de l'église, lesquelles étaient alors d'énormes panneaux de fort bois couverts de cuivre, bordés de clous de fer et encadrés de sculptures. Parvenu dans la haute cage de la sonnerie, Quasimodo considéra quelque temps, avec un triste hochement de tête, les six campaniles, comme s'il gémissait de quelque chose d'étranger qui s'était interposé dans son cœur, entre elle et lui. Mais quand il les eut mises en branle, quand il sentit cette grappe de cloches remuer sous sa main, quand il vit, car il ne l'entendait pas, l'octave palpitante monter et descendre sur cette échelle sonore comme un oiseau qui saute de branche en branche, quand le diable musique, ce démon qui s'écoute en tressaut, étincelant de strettes, de trilles et d'arpèges, se fut emparé du pauvre sourd. Alors il redevint heureux, il oublia tout, et son corps et son cœur qui se dilataient fit épanouir son visage. Il allait et venait, il frappait des mains, il courait d'une corde à l'autre, il animait les six chanteurs de la voix et du geste comme un chef d'orchestre qui est prône de virtuoses intelligents. Va, disait-il, va, Gabriel, c'est cela, Thibault, bravement, c'est cela, Guillaume, à toi, le plus gros. Qu'est-ce que c'est que ces becs de cuivre qui ont l'air de bâiller quand il faut chanter, aller, qu'on travaille, c'est l'Annonciation, beau soleil, carillon, pauvre Guillaume. Il était tout occupé d'aiguillonner ses cloches qui sautaient toutes les six à qui mieux et secouaient leurs croupes luisantes comme un bruyant attelage de mules espagnoles piquées çà et là par les apostrophes du sagal. Tout à coup, en laissant tomber son regard entre les larges écailles ardoisées qui recouvrent à une certaine hauteur le mur du pic du clocher, il vit dans la place une jeune fille bizarrement accoutrée, qui s'arrêtait, qui développait à terre un tapis où une petite chèvre venait de se poser, un groupe de spectateurs qui s'arrondissait alentour. Cette vue changea subitement le cours de ses idées et figea son enthousiasme musical comme un souffle d'air fige une résine en fusion. Il s'arrêta, tourna le dos au carillon et s'accroupit derrière l'auvent d'ardoise en fixant sur la danseuse ce regard rêveur. Cependant, Les cloches oubliées s'éteignirent brusquement, toutes à la fois, au grand désappointement des amateurs de sonneries, lesquels écoutaient de bonne foi le carillon du dessus, le pont au change, et s'en allèrent stupéfaits, comme un chien à qui l'on a montré un los et à qui l'on a donné une pierre. C'était Esmeralda, sans doute.